Effectivement, comme Pierre l'a évoqué à l'instant, nous avons eu notre rencontre sur la formation du disciple et le thème que nous avons abordé était le service pour Dieu. Alors c'est un sujet qui est très vaste et qu'on nous avons essayé d'aborder en l'espace de 2 heures. Dans ses grandes lignes, bien sûr. Il y a beaucoup de détails qui sont passés peut-être inaperçus au vu d'un sujet vraiment inépuisable concernant donc le service pour le Seigneur. Et j'aimerais ce matin donc m'attacher à un petit détail au sujet du service de Dieu et que la parole de Dieu, dans 2 versets, veut nous évoquer d'une certaine manière. Alors je vous invite à prendre avec moi 2 versets dans le Nouveau Testament. Le premier dans 2 Corinthiens chapitre 11. 2 Corinthiens chapitre 11. Et nous lirons les 3 premiers versets et puis ensuite nous irons dans Éphésiens. Donc le premier verset, le premier passage, pardon, dans 2 Corinthiens chapitre 11, versets 1, 2, 3. « Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie. Mais oui, supportez-moi, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » C'est le verset 3 qui va nous intéresser. « Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. » Un deuxième passage dans Éphésiens chapitre 6. Donc retenez ce verset 3, « Que nos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. » Éphésiens chapitre 6, et puis le verset 5, « Serviteur. » Ah, on est dans le service là. Mais il y a un petit détail. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Alors peut-être, à cette première lecture, vous avez vu le dénominateur commun entre ces deux versets. Le verset 3 de 2 Corinthiens 11, et puis donc ce verset dans Éphésiens 6, chapitre 5. Servir le Seigneur et les autres, bien sûr, avec la simplicité de notre cœur. Nous le disons, mais est-ce que nous le faisons? Est-ce que c'est la réalité? Donc c'est un peu le sujet de notre méditation ce matin, et pour montrer que telle est la volonté de Dieu, qu'il en soit ainsi pour nous qui sommes ses rachetés pour le servir, eh bien j'aimerais prendre 3 exemples tirés d'histoires bibliques, dont 2 d'entre eux mettent en avant des enfants ou des adolescents. Alors j'en vois quelques-uns là, et ça va être intéressant de regarder ça. Mais ces leçons, bien sûr, ces exemples vont être bons pour tous, hein, pas seulement pour les enfants. Et le caractère simple que nous allons voir de leur service pour Dieu, de leur service pour Christ, que ces histoires rapportent, sont vraiment tout ce que Dieu désire pour nous tous. le servir avec la simplicité de notre cœur. Et parfois, ce n'est pas ce que nous faisons. Le servir simplement, là où il nous place, avec la force ou les ressources qu'il nous donne, c'est ce que Dieu veut pour nous. Le servir avec simplicité, c'est le faire, sans chercher à compliquer les choses, sans se laisser distraire, sans hypocrisie, sans nous plaindre ou nous vanter, sans critiquer le travail ou le service de l'autre, qui parfois pour nous n'est pas comme on voudrait. Sans le faire avec superficialité, mais dans un engagement véritable et total pour Dieu, et donc inéluctablement pour son prochain et en particulier pour ses frères et sœurs. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est la réalité de notre vie aujourd'hui, de servir Christ et les autres avec la simplicité de notre cœur? Et il y a auparavant peut-être une question qu'il faut nous poser par rapport à cela. S'il y a derrière le fait de servir le Seigneur une réelle motivation, une réelle raison. D'abord, il faut commencer par ça. Pourquoi le servirions-nous finalement ? Comme le Seigneur nous le demande. Alors j'aimerais prendre un autre passage dans 2 Corinthiens chapitre 5 qui va nous l'expliquer rapidement. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 14 et 15. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 14 et 15. Et là, ceux qui étaient là hier vont reconnaître certains versets que je vais redonner, bien sûr. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Et on va voir tout à l'heure, lorsqu'on va prendre ces trois exemples, que c'est réellement à la base de leur service fait pour Dieu avec la simplicité de leur cœur, la réelle motivation, la raison qui est derrière tout cela, eh bien, c'est l'amour de Christ. Et si l'on devait étudier la vie de l'apôtre Paul, qui prendrait des heures, des jours, des mois, des années, peut-être la première des choses que nous pourrions faire à son sujet serait de trouver les raisons et les motivations qui l'ont poussé à servir le Seigneur d'une manière infatigable, simple et totalement désintéressée, n'est-ce pas ? Il en donne lui-même la principale raison pour lui-même, même s'il dit « nous » dans ces deux versets que nous venons de lire, c'est l'amour de Jésus-Christ. Et il s'agit donc de l'amour de Christ pour lui, envers lui. Voilà ce qui différencie vraiment le chrétien authentique de celui qui est religieux, mais pas sauvé. De dire qu'il sert, mais pas avec la simplicité du cœur, telle que la parole de Dieu nous le demande, avec tout ce que cela comporte, et avec les bonnes motivations et les bonnes raisons. Parce que parfois, nous n'avons pas les bonnes motivations et les bonnes raisons. La vraie raison, la vraie motivation pour laquelle un vrai chrétien s'efforcera de plaire à Dieu, ou s'efforce de plaire à Dieu et le servir, c'est parce qu'il éprouve une grande et infinie reconnaissance envers celui, donc Christ, qui est mort pour lui et qui en conséquence lui accorde un pardon et une vie nouvelle en lui et une vie éternelle. Une grande reconnaissance. Et si le croyant a bien saisi cela, eh bien, il pourra dire comme l'apôtre Paul, l'amour de Christ nous presse. On ne peut pas rester comme cela, comme si rien ne s'était passé pour nous. L'amour de Christ nous presse. Je ne dois pas servir le Seigneur, ne serait-ce que simplement, comme on va le voir, pour gagner sa faveur. Parce que s'il en est ainsi, alors nous ferions un peu comme nos amis catholiques. C'est le salut par les bonnes œuvres. Un concept, une philosophie, une doctrine anti-scripturaire, contraire à la volonté de Dieu. Et puis aussi, je serais constamment angoissé à l'idée de faire jamais assez bien pour compenser le mal qui est en moi. N'est-ce pas? Et si quelqu'un, ce matin, est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes pour lui sont passées. Voilà, maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela nous vient de Dieu. Le chrétien, qui est désormais pardonné, réconcilié avec le Seigneur par sa mort, s'il le sert donc, c'est par reconnaissance et amour pour lui. Et c'est ce que nous allons voir dans ces trois magnifiques exemples de la parole de Dieu. Et ils vont le faire avec simplicité de cœur. On voit par exemple dans Romains chapitre 8, verset 1, oui, qu'il n'y a désormais pour celui qui est en Christ aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Et cet amour qui vient de Dieu et qui s'est extraordinairement manifesté à la croix doit donc trouver un écho dans mon cœur, dans votre cœur, n'est-ce pas ? Les choses ainsi se sont déroulées il y a 2000 ans en arrière. Le Seigneur donc a donné sa vie pour nous. Il n'est donc pas possible que nous faisions comme si rien ne s'était passé. Et c'est ce que Paul veut dire par l'expression « l'amour de Christ nous presse ». Alors, ce n'est pas une question de pression, parce qu'on pourrait plutôt traduire, et ce serait plus juste, l'amour de Christ nous étreint. C'est l'idée que l'amour de Jésus-Christ renferme tout chrétien dans une sorte d'obligation pour lui, qu'il a de l'aimer à son tour, en vivant non plus pour lui-même, parce qu'il ne s'appartient plus, mais vivre pour celui qui est mort et ressuscité pour lui. Ça devient pour lui comme une obligation de l'aimer à son tour. L'amour de Christ m'étreint. Je l'aime parce qu'il m'a aimé le premier. J'aime mon Seigneur d'un amour volontaire et cela m'est possible parce que dans sa grâce, oui, le Saint-Esprit a été répandu dans mon cœur. Et donc cela désormais m'est rendu possible et le faire d'une manière simple. Alors, prenons un premier exemple. J'aimerais voir avec vous dans 2 Corinthiens chapitre 8. Les croyants des églises de Macédoine en ont donné franchement un touchant témoignage de cette simplicité de cœur à servir le Seigneur et à servir les autres. 2 Corinthiens chapitre 8, et je vous propose la lecture des 8 premiers versets. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. À travers la grande épreuve de leurs afflictions, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Nous avons donc engager Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance comme il l'avait commencée. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver par l'exemple du zèle des autres la sincérité de votre amour. La question qu'il faut peut-être se poser dans l'immédiat, mais d'où vient ce zèle hors de commun de ces chrétiens de Macédoine? Hors du commun, parce que lorsqu'on regarde le verset 2, on comprend ce qui se passe là. On comprend la situation qui est la leur. Ils étaient tous, ces chrétiens de Macédoine, dans de grandes difficultés, et en particulier dans une grande pauvreté financière. Et pourtant, eh bien, ils n'utilisent pas cette situation comme excuse pour se défiler face aux besoins qu'ils ont appris d'autres églises qui sont dans une situation difficile. Et donc, ils décident, sans se poser de questions, sans hésiter un seul instant, dans la simplicité du cœur, parce qu'ils veulent servir Dieu et les autres, à les aider avec le moyen qu'ils ont. Mais alors, quel moyen? Mais rien. Le peu qu'ils ont. Et le peu qu'ils ont, ils vont le mettre à la disposition du Seigneur, à la disposition des autres. Bien plus. Ils ont même insisté auprès de l'apôtre pour participer selon le peu de leurs moyens. Donc, à se mettre au service et assister donc leurs frères qui sont, j'allais dire, dans la mouise. Leur motivation? Mais il n'y en a qu'une. Leur amour pour le Seigneur. Et donc, par voie de conséquence, leur amour, leur profonde reconnaissance pour le Seigneur qui les a conduits à aimer aussi leurs frères, leurs sœurs, qui ne faisaient même pas partie de leur église, qu'ils ne connaissaient même pas en quelque sorte, mais dont ils avaient appris par voie intermédiaire qu'ils avaient besoin d'aide, de solidarité extérieure. Et ils n'ont pas hésité un seul instant. Verset 5, ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous. Ça, c'est simple. C'est la simplicité même. Ils n'ont rien compliqué. Souvent, on se pose plein de questions. Ah oui, mais... Oh, si je dis ah oui, mais c'est fini. On ne va pas plus loin. Là, ils ont dit oui. Oui, Seigneur, on se donne à toi. On se donne aux autres. Dans la simplicité de leur cœur. Est-ce que nous sommes dans ce cas-là, mes amis? Dans cette situation-là? Est-ce que notre cœur est aussi simple, finalement, que ceux de nos frères de Macédoine à l'époque? Et c'est de cette façon-là qu'ils ont pu, par amour, servir simplement le Seigneur et leurs frères en Jésus-Christ. Et quand bien même, eh bien, étaient leurs pauvres ressources pour le faire. Est-ce que notre amour pour le Seigneur et pour les autres est de cette qualité-là? Moi, j'ai beaucoup de progrès à faire de ce côté-là. Énormément de progrès à faire lorsque je regarde à moi-même. Est-ce que je fais passer l'intérêt de mon frère, de ma sœur, avant mon propre intérêt? On dit souvent oui, mais notre comportement, souvent contraire, trahit bien des fois nos bonnes paroles. Si on y réfléchit bien, si on se met devant le Seigneur pour cela? Est-ce que nous obéissons à l'ordre de Philippiens chapitre 2? Regardez avec moi. Philippiens chapitre 2, c'est un ordre simple. Versets 3 et 4. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. C'est vrai ça? Je ne sais pas. Moi, j'ai des progrès à faire. Alors, vous connaissez cette maxime? Charité bien ordonnée commence par soi-même. Charité bien ordonnée commence par moi-même. Ça, c'est une maxime qu'on connaît tous, hein, je pense, qui encourage à songer d'abord à soi-même avant les autres. Mais c'est ce que tout le monde dit, et tout le monde trouve ça naturel et normal. Et cette façon de penser, ne s'est-elle pas infiltrée dans l'Église? Je crois que oui, quand on y réfléchit bien. Le chrétien porte de moins en moins le fardeau de son frère, pensant qu'il a mieux à faire déjà avec lui-même. Alors on va déjà s'occuper de ses affaires, et puis après on verra pour son frère ou sa sœur. On prie plus pour son frère ni sa sœur, ou on vient de moins en moins pour se rassembler avec les autres, pour écouter les besoins, et donc pour prier avec l'autre, pour porter son fardeau, s'il y en a un. On vient au culte d'adoration, oui, le dimanche, comme parfois ça nous chante. Tout cela sont des signes que le refroidissement, l'égoïsme, on peut l'appeler comme ça, se sont substitués d'une certaine manière à l'amour de Dieu, lequel doit rester pour chacun de nous, frères et sœurs, mes amis, la première motivation, la première raison pour lequel je sers Christ avec la simplicité de mon cœur. Un deuxième exemple qui montre la simplicité du service, c'est, on le trouve dans Deux Rois, prenez avec moi, c'est l'exemple d'une petite fille, Deux Rois chapitre 5, on connaît cette histoire par cœur, mais c'est bien de s'y arrêter. 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Rois chapitre 5. Pardon. 2 Rois chapitre 5. Et on va lire les 4 premiers versets. Voilà, c'est une courte histoire finalement. Alors c'est Naaman. Alors, on connaît l'histoire de Naaman parce qu'il n'y a pas longtemps on en a parlé. 2 Rois chapitre 5, versets 1 à 4. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit, cette petite fille, à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et tout grand qu'il était, tout fort qu'il était, avec son haut niveau social, Naaman a écouté cette petite fille et a reçu son message. Elle avait, avec ses propres mots, avec la simplicité de son cœur, témoigner de la puissance de son Dieu. Est-ce que c'est notre attitude aussi? Alors j'aime personnellement cette histoire. Pas tant finalement Naaman, qui bien sûr après cela, on connaît son histoire, a été guéri et s'est approché de Dieu. Mais parce que cette histoire montre en fait ce que Dieu veut mettre en valeur. Très souvent, je dirais depuis toujours, et c'est encore vrai aujourd'hui, dans l'esprit de l'homme irrégénéré, la valeur, la force, la puissance d'une personne est très souvent liée à sa grandeur et à sa position sociale. Alors, Naaman était quelqu'un qui avait une grande valeur. Et parce qu'il le savait d'une certaine manière lui-même, il voulait cacher ce qu'il avait, la maladie qu'il avait et qui le rongeait. Le Seigneur, avec ses disciples, a eu la même réflexion. En tout cas, ses disciples ont eu la même réflexion que cet homme irrégénéré peut avoir à son esprit. Et le Nouveau Testament nous le révèle. Regardez avec moi Luc chapitre 22. Luc 22. Et Jésus est avec ses disciples. Alors, on a lu ce passage hier matin aussi. Luc 22, et on peut lire des versets 24 à 26. Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation. Alors déjà, on n'est pas dans la simplicité. Hein. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? Oula. Jésus leur dit, les rois des nations, et on peut penser à Naaman, hein, les rois des nations les maîtrisent et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit et celui qui gouverne comme celui qui sert. Voilà l'enseignement de la parole. Dieu nous fait comprendre dans cette histoire, au contraire, de ce que les disciples pouvaient penser, eh bien, qu'il veut manifester sa puissance à travers de ce qui est insignifiant, à travers de ce qui est humble. Et c'est ce qu'il fait, même si cette petite fille ne le sait pas, c'est ce qu'il fait avec cette petite fille, dont on ne connaît même pas son nom, parce que quelque part, ce n'est pas important, ce n'est pas ce que Dieu veut mettre en avant. C'est son témoignage. Il a été soigneusement consigné dans la Bible pour nous apprendre quelque chose, frères et sœurs, de servir le Seigneur comme elle le fait elle-même, dans la simplicité de son cœur. Alors on peut se demander, mais pourquoi cette jeune fille a été arrachée à sa famille, à son peuple? Comme on voit toutes ces familles en Israël qui sont déchirées par la séparation. On se pose plein de questions. On y voit peut-être là de l'injustice. Et des injustices de la sorte, il y en a des tonnes dans notre monde, n'est-ce pas? Mais parce que Dieu, dont nous ignorons les desseins, l'avait placé à ce moment-là, cette petite fille, choisi par Dieu pour être le canal de sa grâce et conduire ce général à connaître Dieu par la foi. Oh là là! Et Dieu avait gardé cette petite fille. Parce que quand on regarde le texte, on sent qu'il n'y a aucune amertume chez cette jeune fille. Il n'y a rien dans son cœur. Aucun ressentiment à l'égard de sa maîtresse ou de son maître, Naaman, parce qu'elle servait son Dieu avec simplicité des cœurs Et donc, elle servait les autres et son maître de chair, si je peux dire, qui était Naaman, avec la même simplicité, par amour pour son Dieu. Et on peut dire que, même je crois qu'elle avait compris, cette petite fille, que finalement, dans un sens, Naaman était plus malheureux qu'elle dans sa situation. Et c'est vrai, lorsque on y réfléchit, nous devrions être malheureux pour tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur et qui sont autour de nous. Ça doit nous faire quelque chose, au point que nous ne devrions pas rester silencieux devant tous ceux qui se perdent, mais simplement, dans la simplicité de notre cœur, eh bien, parler de notre Seigneur, comme cette jeune fille l'a fait. Et le Seigneur, à travers elle, a accompli sa volonté. Et sa foi lui permet d'ailleurs, dans ce qu'elle a dit, elle était pleinement convaincue de ce qu'elle a affirmé. Alors que on peut apprendre en étudiant l'histoire que le prophète Élisée, dont cette jeune fille parle, n'avait encore jamais guéri qui que ce soit de la lèpre. Et pourtant, par la foi, elle était convaincue que Naaman pouvait être délivré de la lèpre en allant voir ce prophète. Et donc, on sait qu'il a été guéri. Mais la leçon à retenir pour nous, c'est que, voilà, on n'est jamais trop jeune pour être un témoin du Seigneur. Alors s'il y a des jeunes, voilà. Et si vous avez dans votre cœur la foi en Jésus-Christ, on n'est jamais trop jeune pour être un témoin de Jésus-Christ dans la simplicité de son cœur. Quel bel exemple de simplicité. Un troisième exemple. Alors on le trouve dans Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Et là c'est aussi un enfant. Histoire de Nouveau Testament bien connue, celle de la multiplication des pains et des poissons. Alors, je vous propose la lecture des 9 premiers versets. Après cela, alors Jésus était à Jérusalem juste avant. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, ou mer de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon, Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» On s'arrête la lecture ici. Alors, ce n'est que dans l'évangile de Jean, parce que le miracle de la multiplication des pains est aussi décrit dans les 3 autres évangiles, mais ce n'est que dans l'évangile de Jean qu'on y voit ce jeune garçon. C'est le disciple de l'amour, Jean, qui nous parle, lui seul, de ce jeune garçon. Le disciple de l'amour. Et il y a un lien, bien sûr, dans tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu et qu'il l'écrit aussi. Et on a l'impression que cet enfant est bien seul au milieu de toute cette foule, hein. Jeune enfant, on y voit plutôt des adultes qui sont là en train de suivre le Seigneur Jésus parce qu'ils ont, ils l'ont entendu ou ils l'ont vu faire des miracles, alors toute cette foule le suit. Et puis il y a cet enfant au milieu de tout ce monde-là, peut-être perdu, il est là avec son panier. Il a amené son panier, rempli de ce que l'on sait. Et si la parole de Dieu en parle, c'est parce que son exemple rappelle aussi qu'à tout âge, hein, on peut faire quelque chose de simple pour le Seigneur. On a vu cette petite fille, on peut dire quelque chose de simple. Avec ce jeune garçon, on peut faire quelque chose de simple. À tout âge. Et en commençant dès sa jeunesse. Il n'y a pas d'âge pour servir le Seigneur. Je ne sais pas si on s'en rend bien compte, mais ce garçon, sans qu'il le veuille lui-même, bien sûr, devient le moyen inattendu qui permet à Jésus de pourvoir aux besoins de ces milliers d'hommes qui sont là. C'est incroyable. Il utilise la présence d'un jeune enfant rempli de conviction pour cela. Alors, on peut se poser la question, est-ce qu'il était le seul, ce garçon, à venir avec de la nourriture? Alors, le texte ne nous le dit pas. Sans doute que non. Mais ce dont je suis sûr, c'est qu'il est le seul qui était prêt à sacrifier le peu qu'il avait dans les mains pour le mettre à la disposition de Jésus. Ça, j'en suis sûr. Quelle foi, cet enfant. Faite de simplicité, faite d'humilité. On ne connaît même pas son nom, comme cette petite fille qui s'est mise à la disposition de Dieu. Sa foi lui a permis de s'approcher de Jésus, malgré sa jeunesse. Ça montre qu'à tout âge, on peut s'approcher de Jésus. Ou plutôt, Jésus s'est approché de lui. Et aussi de ne pas être impressionné par, parce que ce garçon ne l'était pas, de l'insuffisance des ressources qu'il avait entre les mains. Il a simplement amené à Jésus le peu qu'il avait. Et ce n'était que 5 pains et 2 poissons pour nourrir 5000 hommes. Alors, faisons les comptes. Comment est-ce possible? Mais il n'a pas du tout eu peur, ce jeune garçon, de tout perdre. Parce qu'il s'est dit, mais si je remets le peu que j'ai dans mon panier, alors il n'en restera plus pour nous. Comment va-t-on faire pour manger? Non, il n'a pas eu peur de tout perdre pour l'amour de Jésus en mettant ce qu'il avait à sa disposition. Alors, on sait qu'il n'a rien dit. Le texte ne dit rien là-dessus, mais sa disponibilité, son désintéressement, son sacrifice nous en dit long, mes amis, sur sa foi simple dans le Seigneur. C'est ce que Dieu veut pour nous tous, que nous le servions avec la simplicité de notre cœur. Et ces trois exemples nous montrent que si Dieu nous confie un service, alors il pourvoira à tous nos besoins pour que cela puisse se faire. C'est la première leçon qu'on peut retenir. Il y a aussi le fait que, comme on l'a vu, eh bien, le Seigneur nous place aussi, à tout moment, dans des situations où nous pouvons saisir les occasions qu'il nous donne pour le servir. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que nous discernons avec l'Esprit du Seigneur toutes les occasions que Dieu nous donne dans la vie pour le servir, sachant que ces occasions nous viennent de lui, pour le servir dans la simplicité de son cœur, soit avec des paroles, soit avec des actes. Et puis, une autre leçon, c'est que, comme cette jeune fille, nous ne pouvons pas nous taire en tant qu'enfants de Dieu. L'amour de Christ nous presse, n'est-ce pas ? Et parler simplement de notre Seigneur à notre prochain, c'est quelque chose que Dieu veut pour nous tous également. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations, nous avons dans l'Église de Jésus-Christ un rôle à jouer et un service à rendre. Alors, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 15 nous dit ceci, « Afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Alors, la meilleure manière, je crois, alors pour nous aujourd'hui, parce que telle est aussi la volonté de Dieu, de vivre non plus pour nous-mêmes, mais pour celui qui est mort pour nous, c'est l'exemple des églises de Macédoine, c'est d'abord nous donner au Seigneur, n'est-ce pas ? Alors je ne sais pas s'il y a quelqu'un ce matin qui ne s'est pas encore donné au Seigneur. Dans la repentance, dans la confession de ses péchés et dans la foi en Jésus-Christ. S'il y en a, s'il y a quelqu'un parmi vous dans cette situation, alors ce matin même, le Seigneur vous appelle à lui. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Nous donner au Seigneur et ensuite nous donner à Jésus-Christ, voilà les deux objectifs finalement de Dieu et sa volonté. Et peut-être le mieux aussi dans le contexte, dans notre contexte actuel, c'est de penser eh bien, à nous donner au Seigneur à travers ma participation dans la vie de l'Église locale, dans laquelle je suis, dans laquelle je viens, où je me rassemble. Et si vous avez compris que ce n'est que de cette façon que Dieu veut que nous servions le Seigneur, parce que c'est ainsi que nous allons également nous mettre à la disposition des uns et des autres pour nous mettre à leur service, pour porter leur fardeau. Alors, il ne faut pas hésiter à en parler, à nous en parler, et on pourra regarder les choses ensemble. Alors, si on a bien compris ce que la parole de Dieu veut nous enseigner ce matin, est-ce que je peux dire pour moi-même, maintenant ? L'amour de Christ me presse. C'est ma raison d'être et ma motivation première pour me mettre au service du Seigneur et me mettre au service des autres avec sincérité, engagement volontaire et total désintéressement, c'est-à-dire avec la simplicité du cœur. Que Dieu nous y aide, frères et sœurs. Amen. Alors j'aimerais qu'on chante ce cantique « Tu es venu jusqu'à nous » parce que la dernière strophe nous parle de notre engagement à servir le Seigneur et à servir également les autres. Et puis, je terminerai. Tu peux jouer si tu veux. Nous terminerons par la prière et puis nous pourrons ensuite nous saluer, bien sûr, les uns et les autres. Voilà, je vous invite à vous lever pour chanter ce cantique final.